Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 20 janvier. Mais non, je ne vous ai pas abandonné. Je suis de retour avec vous et je suis en compagnie de André Étienne.
Bonjour, bonjour. André.
Et Geneviève Patterson.
Bonjour, Michel.
Une petite
bonjour,
nouvelle André. Qui nous a remplacé, qui m'a remplacé.
Qui t'a remplacé pendant que tu étais en vacances.
Pendant que j'étais en vacances.
Et ben, je peux confirmer que Michel a pris de belles vacances. Il est bien bronzé ce matin.
Oui, mais il faut dire dans le sud, attention, j'ai été à des températures cependant qui étaient autour de 2 à 5 degrés. Terre de feu. Terre de feu ne veut pas dire chaleur. C'est votre émission qui vous parle de voyage, de nature, de science. Et je voudrais en profiter pour souligner la présence de nouveaux auditeurs, je m'excuse, des gens fort sympathiques que j'ai rencontrés en voyage, particulièrement de Sorel, de Saint-Jean, entre autres, et qui ont rendu mon voyage agréable, dois le dire. Absolument, c'est ça. C'est un plaisir de vous retrouver. Alors, André.
Oui?
Des sujets aujourd'hui.
Oui, alors, deux sujets. L'un qui va parler d'un problème très crucial en ce moment, la résistance aux antibiotiques, et l'article s'intitule « Les virus à la rescousse ». L'autre, un problème également assez crucial, Fukushima débordé par l'eau contaminée.
Ah!
C'est quelque chose.
Oui, ça fait déjà un certain temps.
Hein. Et puis, c'est pas terminé, c'est loin d'être terminé. Oui, c'est gravissime.
Geneviève.
Moi, de mon côté, je nous fais toujours voyager. Je nous amène 48 heures à Margarita, qui est une ville au Venezuela. Et puis ensuite, de retour sous la neige à Sun Peaks, du ski à dimension humaine.
C'est mon cocktail aussi, Margarita. Hein?
Tout à fait.
Oui, absolument. Particulièrement en croisière, un peu partout dans le monde. On prend des margaritas, c'est très connu. De mon côté, je vais vous amener à un endroit qui s'appelle Bâton Rouge. Et vous allez voir, c'est un endroit quand même vraiment très intéressant. C'est pour ça que je vous en parle, d'ailleurs. Et... Êtes-vous prêt? Je vous pose la question. Est-ce que vous êtes prête à vivre longtemps? Mais quand je dis longtemps, je veux dire très longtemps.
Ça dépendra en quel état.
Ah oui, voilà une réponse très sage. Alors, Bâton Rouge, c'est tiré d'un article de Sarah-Émilie Nau dans le Journal de Montréal du 15 novembre.
C'est un drôle de nom, ça. Est-ce que vous pouvez nous donner l'origine de ce mot-là, de cette
voici, c'est
nom de baptême?
Lors d'une expédition sur les rives du Mississippi, et ça, c'est quelque part en 1699, je n'étais pas là à cette époque-là.
D'accord.
Le sieur d'Iberville déniche un bâton de cyprès qui était rougeâtre. Et cette tige était couverte alors d'illustrations d'animaux et servait à délimiter le territoire des tribus de chasseurs. Et l'explorateur français baptise alors l'endroit le Bâton Rouge,
d'accord,
permettant
merci.
Que la future capitale de la Louisiane porte un nom francophone. Voilà.
Ah, ça va.
Alors aujourd'hui, à une heure de route de la Nouvelle-Orléans, Bâton Rouge peut toujours compter sur des influences françaises, mais aussi créoles et espagnoles, indigènes aussi, et pour attirer les touristes. C'est une ville qui a doublé de population en une nuit. Vous
comment
savez
ça,
pas quoi?
Comment ça?
C'est lors du passage de Katrina, il y a 9 ans. Donc, c'est près de...
Ah, d'accord.
Alors, tout le monde s'est enfui vers Bâton Rouge à ce moment-là, plutôt que la Nouvelle-Orléans, qui était décimée par les eaux. Hein?
Okay.
Alors, si on accepte de braver la chaleur estivale de Bâton Rouge, c'est d'abord pour une raison très simple, sa nourriture. La capitale nous invite à participer à l'une ou l'autre de ces fameuses tournées culinaires en se procurant la brochure qui s'appelle « Eight Mouth Watering Road Trips ». Bon, en gros, c'est des voyages qui nous font saliver. On pourrait aller par soi-même manger avec les gens de la place, les locaux. Ces tournées gastronomiques permettent de découvrir des restaurants branchés, chaleureux, d'autres doux, sucrés, créatifs, ou avides de tradition, où les touristes, comme les gens de la place, se ruent depuis plus de 5 décennies afin de manger les meilleurs po' boys de la ville. C'est un Subway à l'américaine, si vous voulez. Vous savez comment ça peut
c'est
être.
C'est notre hamburger?
Gigantesque. Non, pas du tout hamburger. C'est un sous-marin qui est garni de tout ce que vous pouvez imaginer.
Okay.
Alors, les Américains ont une très grande imagination dans ce sens-là. Et sur la liste des incontournables gourmandises louisianaises se retrouvent aussi les gumbos. Les gumbos, c'est un ragoût mijoté qui est originaire de la Louisiane française. Et les fruits de mer, bien sûr, les poissons bouillis, les fruits grillés, noircis, les fameuses huîtres aussi, les chaudières d'écrevisses. Hein, les Américains en mettent, hein? Et les plats plus exotiques composés d'alligators et de tortues.
Ouais.
Bon, on est peut-être un peu réticents à ça, mais c'est excellent. J'en ai déjà dégusté. Des sandwichs italiens, de la viande fumée, du salami, du jambon, salade d'olive, des bisques de toutes sortes. Bah, est-ce qu'il y en a qui sont en train de déjeuner actuellement? En passant, bien sûr, par les food trucks qui sillonnent la ville. Vous savez, ces camions là, qu'on trouve partout aux États-Unis depuis très longtemps. Nous autres, on est en expérimentation ici.
Oui, ça commence. Voilà.
Ça commence.
Et au cœur de toutes ces saveurs, ben, il y a l'histoire de la Louisiane aussi. Le plongeon dans le passé se fait en parcourant l'exposition Grounds for Greatness, qui est présenté au Louisiana State Museum. On relate les étapes importantes de l'histoire de la Louisiane, particulièrement le Louisiana Purchase en 1803. Vous savez que la France a vendu la Louisiane. Mais ce n'était pas la Louisiane d'aujourd'hui, il faut savoir. Hein? C'était 22 % des États-Unis à ce moment-là. Alors, je vous fais grâce de tous les États que ça comprenait. Donc, vous avez des Français catholiques, les Anglais protestants. Vous avez la guerre de 1812, l'esclavage, évidemment, et l'assassinat d'un bonhomme qui s'appelle Huey Pierce Long.
Mais pourquoi?
Huey Pierce Long, ça a été le gouverneur de la Louisiane. Et c'est la figure principale du fascisme américain. On l'appelait « the Kingfish ». Puis, il est mort assassiné. Et vous avez aussi la deuxième exposition qui s'appelle « Louisiana Experience ». Elle présente de façon colorée la vie, les excentricités de la Louisiane. Bien sûr, à travers le football qui est fort important en Louisiane, les saints de la Nouvelle-Orléans. Hein. Et le Mardi Gras, la gastronomie, le vaudou, le jazz, les costumes cajun, culture créole. Donc c'est très, très varié, Bâton Rouge. Et vous pouvez pénétrer dans un endroit qui s'appelle le Huey Pierce Long, un film sur l'histoire du château et ses fantômes, après avoir profité d'une vue extraordinaire sur les jardins verdoyants. Et c'est fascinant de pouvoir pénétrer dans chacune des pièces de l'énorme bateau de guerre qui s'appelle le USS Kidd. C'est le seul vestige restauré de la Seconde Guerre mondiale. Et à l'aide d'un plan, de numéros à suivre, on poursuit son chemin à bord de l'un des navires de combat les plus connus d'Amérique, lourd de 2050 tonnes. Ben ici, on connaît peu, mais aux États-Unis, ça a vraiment une signification, le USS Kidd. Il y a plusieurs plantations qu'on peut visiter aussi alentour de Bâton Rouge, parce qu'il ne faut pas oublier que ça a été un centre d'esclavage à l'époque, hein, particulièrement pour la culture du coton. Ah, il y aurait encore beaucoup à dire sur Bâton Rouge. C'était simplement un petit peu, comme le disait tout à l'heure, pour mettre l'eau à la bouche.
Un apéritif.
Oui, en appétit, tout à fait. Ben, c'est le cas, Bâton Rouge, c'est très varié. Hein? Et c'était tiré d'un article de Sarah-Émilie No dans le Journal de Montréal du 15 novembre. Ben, il faut dire 2014.
Eh oui, c'est vrai.
Merci, Michel.
Merci.
Des virus?
Oui, des virus. Les virus qui viennent à la rescousse. Parce que savez-vous, de la publication du très sérieux Lancet fait de 2014 l'année où la résistance aux antibiotiques a enfin été prise un peu plus au sérieux. Et elle est prise au sérieux par beaucoup de gens parce qu'ils disent que d'ici 2050, ça pourrait faire 300 millions de morts. Même Barack Obama a mis en place une stratégie pour développer des tests, des concours. Et certains chercheurs disent que la menace est encore plus grande que celle posée par Ebola. Alors, bon, évidemment, la problématique et l'urgence, c'est pour les chercheurs, c'est de trouver une nouvelle arme. Et ils en ont trouvé une qui est 100% naturelle, à savoir les virus qui infectent ces germes devenus résistants. Donc, on va utiliser des virus comme médicaments. L'objectif, c'est combattre les bactéries comme les staphylocoques, pneumocoques et autres streptocoques avec des virus qui vont les désagréger littéralement. Mais pas n'importe quel virus, hein. Des bactériophages. Bactériophages, ça veut dire littéralement des mangeurs de bactéries.
Ah oui, et on trouve ces bactériophages, on trouve ça où?
Ah ben alors, ne soyez pas dégoûtés, parce qu'on va les trouver partout où il y a des bactéries, c'est-à-dire sur les trottoirs, dans les eaux usées.
Ah oui.
Et tenez-vous bien ce que je disais dans l'article donc, qui est extrait de Science et Vie du décembre 2014, écrit par Valérie de Villene. Ils vont les chercher à l'entrée des stations d'épuration.
Oh.
Alors, bon, c'est pas dégoûtant, hein, je vous avais prévenu quand même, hein. Une fois qu'ils sont extraits de leur bain nauséabond, ces virus s'avèrent par contre d'une efficacité absolument redoutable. Par exemple, on peut soigner une plaie infectée en apposant une solution de bactériophage sur la blessure. Ou encore, on peut guérir d'une infection des poumons en inspirant des virus tueurs de bactéries.
C'est la première fois que j'entends parler de ça.
Ben oui, c'est effectivement, d'abord, on ne peut pas utiliser ces bactériophages à l'heure actuelle, en tout cas, ni en Amérique du Nord, ni même en France, par exemple, ou dans une partie de l'Europe, parce qu'il y a différentes raisons. D'abord, parce qu'on ne sait pas très bien comment ils agissent, ça c'est la première chose, et aussi parce que quand on utilisait ces virus de façon un petit peu empirique, on ne savait pas très bien comment ils marchaient, pourquoi ils marchaient, si on choisissait le bon. Alors par contre, depuis qu'on avait découvert les antibiotiques, on les utilise largement parce qu'on était sûr qu'ils fonctionnaient parfaitement. C'est une molécule sont des molécules qui sont bien connues et qui peuvent détruire toute une gamme de bactéries, à coup sûr, qui pouvaient détruire toute une gamme de bactéries. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et le grand avantage avec les antibiotiques, c'est qu'on pouvait les fabriquer en grande quantité et à relativement faible coût. Bon, maintenant, la situation est différente. On note un nombre croissant de bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques parce que ces milliards de microbes qui apparaissent, il y en a toujours qui ont subi des mutations et qui acquiert alors la capacité de résister à tel ou tel antibio, voire à tous les antibios existants. Et c'est intéressant de savoir de quelle façon ils ont appris à devenir résistants. Donc, soit parce qu'ils empêchent les médicaments de s'insinuer en eux, soit parce qu'ils ont appris à détruire l'antibiotique. Et même pire que ça, ces bactéries, ces germes, ils ont transmis leur résistance à d'autres, au point que des sous-espèces, appelées souches, sont elles-mêmes devenues résistantes. Alors, on comprend évidemment l'intérêt des chercheurs pour ces bactériophages. Et c'est intéressant parce que ces bactériophages, ils sont eux aussi capables de s'adapter et ils ont la capacité de se reproduire et d'évoluer. C'est quand même un point très intéressant. Ils développent des nouvelles stratégies pour s'attaquer aux bactéries puisqu'ils sont capables d'évoluer. J'espère que je me fais bien comprendre dans le mode d'action de ces virus. Bon, alors...
Si je comprends, ça va bien.
Ça va bien. Ben, ça va pas si mal, en tout cas. Parce que, on se pose la question de savoir où on en est de la recherche avec ces bactériophages qui sont un petit peu nouveaux. À l'heure actuelle, il y a des chercheurs, des médecins qui travaillent pour mettre tout ça en place. Et il y a même un essai clinique. Un essai clinique, ça veut dire que c'est un essai qui est fait sur l'homme, pas seulement sur les animaux, qui a été lancé pour estimer l'efficacité de ces bactériophages chez les grands brûlés. Parce qu'on sait que les grands brûlés, ce sont des gens qui sont particulièrement sensibles aux...
Vulnérables, oui.
Voilà, qui sont facilement... Et puis, il y a une piste de recherche très prometteuse qui serait d'utiliser ces virus comme d'un cheval de Troie, c'est-à-dire qu'on va les mettre comme des bombes à retardement dans les bactéries. Des équipes américaines ont modifié génétiquement des bactériophages qui ne tuent pas, mais qui injecte dans les bactéries une enzyme qui détruit leur résistance aux antibiotiques. Et du coup, non seulement cette enzyme détruit leur résistance aux antibiotiques qui deviennent sensibles au traitement et succombent, mais mieux encore, les bactéries qui n'étaient pas encore résistantes ne peuvent plus le devenir, même si une autre bactérie leur transmet le bon gène. Alors, c'était un article extrait de la revue Science et Vie Junior de décembre 2014, écrit par Valérie de Villene.
On écoutait Sacha Nerubi avec la chanson Princesa, une princesse qui vient peut-être de Margarita, cette ville au large du Venezuela, qui possède un charme délicieusement suranné. Oui, c'est le cas de le dire, le jeu de mots avec la Margarita.
Oui.
Les rues plantées d'hôtels blancs où circulent de vieilles Chevrolet de Port-la-Mar, la ville principale, rappellent le décor d'un film rétro. Même si la perle des Caraïbes a perdu quelque peu de son lustre dans les dernières années, elle recèle de nombreux attraits, à commencer par ses plages. Et c'est ce que Daniel Riendo, un collaborateur spécial dans le cahier Voyage de la presse de samedi dernier, nous parle. Il a fait un petit journal de bord de quelques jours. Donc, jour 1, 9 heures, flânerie à Pampatar. Cœur historique de l'île, le port de Pampatar a été fondé par les Espagnols dans la seconde moitié du 16e siècle. Ces rues étroites abritent quelques constructions coloniales et de petits parcs ombragés agréables à fréquenter. Son attrait principal demeure le Castillo Carlos de Borromero, dont l'édification a commencé vers 1669. Dominant la baie, ses canons servaient à protéger la colonie des attaques de pirates. La place forte a subi de nombreuses transformations depuis et a servi au cours de la guerre d'indépendance. En face, la coquette église Cristo del Buen Viaje mérite un coup d'œil. 11 heures. Farniente à la plage. En marchant vers la pointe de l'île, vous apercevrez la plage de Pampatar au fond de la baie. Sable fin, palmiers, eau turquoise, tous les ingrédients sont réunis pour la farniente sur une chaise longue, et ce, à un jet de pierre de la ville. De dimension modeste, cette plage est le rendez-vous des jeunes familles et des baigneurs du dimanche. Au bout, près des barques, se trouve un petit marché. Vous pouvez acheter aux pêcheurs locaux leurs prises sous l'œil intéressé des pélicans. 13 heures. Goûter aux poissons frais. C'est un délice que de goûter les spécialités de Margarita sur une terrasse près de la mer, un jus de frais à la main. Les insulaires mangent généralement le poisson frit avec des tajadas, qui sont des bananes cuites dans l'huile, cuits à la vapeur dans une sauce à l'ail ou encore garnis de poulpe et de moules en sauce. On mange bien aussi à Margarita, Michel, comme
oui,
à
Patron. Oui, on ne fait pas seulement boire des margaritas, on mange aussi.
Les bonnes fourchettes voudront aussi s'attaquer au pastel de chucho, un mets habituellement servi à Pâques qui ressemble à une lasagne dans laquelle les bananes et la chair de raie remplacent les pâtes et la viande. À Port-la-Mar, le restaurant El Punto Criollo le sert à l'année. 15 heures. Basilique Nuestra Dama del Valle. La Vierge occupe une place importante dans le paysage religieux de Margarita, et les fidèles de passage ont coutume de se rendre à la basilique Nuestra Dama del Valle. Cette église néo-gothique a été construite en 1894 et abrite une image de l'Immaculée Conception. On lui attribue la guérison miraculeuse d'un pêcheur de perles blessé gravement au temps de la colonie. La Vierge del Valle est devenue depuis la sainte patronne des gens de la mer, comme en témoignent les vitraux de la basilique. Profitez de l'occasion pour visiter les marchands de souvenirs à l'ombre des tours jumelles. Certains vendent également des perles à un prix d'amis. Jour 2. Isla Cochée. Est-ce la simplicité désarmante de ses habitants ou la grâce de ses paysages arides qui explique le magnétisme de l'île Cochée? Une chose est sûre, l'endroit séduit avec ses airs de bout du monde, ses hameaux coquets et ses eaux cristallines. D'ailleurs, certains touristes boudent Margarita et préfèrent passer tout leur séjour ici. Un taxi vous mènera à la Playa del Amor. Les tourtereaux peuvent admirer les falaises d'un rouge martien et se jeter dans les flots turquoises des Caraïbes. Le lieu possède son mystère, nous assure notre chauffeur. Lorsque deux amoureux viennent ici, ils sont trois à repartir, confie-t-il. Des navettes sur la plage El Yaqui assurent la liaison avec Cochée. 15 heures, pause fraîcheur La Cocada. Vous sentez que le soleil des tropiques vous rôtit le corps à petit feu? Pensez à vous rafraîchir en essayant La Cocada. On peut boire autre chose que de la margarita au Saint-Margarita.
Ben oui, évidemment. La Cocada.
Alors, cette boisson très populaire sur la côte caribéenne fait le délice des vacanciers. Par temps chaud, il est difficile d'observer le barman mélanger la noix coco fraîche, le lait condensé, la glace et le sucre sans succomber à la tentation. Et la cocada figure à la plupart des menus dans les restaurants de bord de mer et certains bars en font leur spécialité. Et puis, en soirée, on peut allumer ces papilles avec la fosforera, qui est une bouillabaisse typique de l'île. Donc, c'est un bouillon de fruits de mer, de poissons épicés avec un mélange de piment indigène, un brin piquant mais subtil au palais, que les chefs préparent habituellement avec pétoncle et autres fruits de mer. Donc, c'est à consommer en agréable compagnie.
Avec nous!
Avec vous!
Oui.
On ira.
Ça, c'est un projet, oui.
Ah, c'est un projet. C'est sur notre bucket list.
D'accord.
Est-ce que vous savez que l'année 2014 a été une des pires années pour l'aviation depuis 10 ans? 1320 personnes qui ont perdu la vie dans des accidents d'avion en 2014, mais il faut compter les 162 personnes disparues avec l'avion d'Air Asia. le 28 décembre. Et on compte plus de victimes qu'en 2013. Je m'excuse, bien sûr. C'est particulièrement lourd pour les compagnies aériennes asiatiques. Malaysia Airlines, on le sait. Hein? Mais malgré cette mauvaise année pour le transport aérien, le nombre de morts dans les écrasements tend à diminuer. Et ça, en dépit de l'augmentation importante du trafic aérien. En 2014, par exemple, il y a eu 1003 morts et la moyenne des morts par année pour la période auparavant était de 1710. Et en 2014, l'organisation, écoutez bien ceci, l'Organisation de l'aviation internationale indique que les compagnies aériennes ont transporté 3,2 milliards de passagers dans l'année, une hausse de 5 % réalisé un nombre record de vols, 33 millions de vols durant l'année. 33 millions de vols. Imaginez-vous combien il y a de personnes actuellement dans les airs. Et je tiens toujours à dire, vous savez, qu'est-ce qui est le plus dangereux lorsque vous allez prendre un avion? C'est le transport vers l'aéroport.
Oui.
C'est toujours là que c'est beaucoup plus dangereux.
Alors écoutez, c'est comme une communication qui est parue dans le Journal de Montréal. Les aveugles pourront toucher à quelques œuvres d'art au Musée des Beaux-Arts. C'est donc une nouvelle initiative du musée qui s'inspire de ce que font depuis quelques années le Louvre et le Château de Versailles en France. Le 20 janvier,
tu nous en parlais la semaine dernière.
Voilà, donc je vous le rappelle, c'est aujourd'hui que les premiers néophytes auront l'occasion de tâter une imposante sculpture du musée qui s'appelle le granit bleu de Normandie, créé en 1984. Le musée tente de dénicher d'autres sculptures, mais pour le moment, c'est encore en recherche. Par contre, le musée a fait fabriquer des répliques de Rodin pour permettre aux aveugles de découvrir le travail de ce sculpteur de génie. Ça va faire l'objet d'une exposition à côté du 30 mai. Les visiteurs aveugles pourront les tâter dans les moindres détails. La Fondation des aveugles, évidemment, se réjouit de cette initiative. Et je veux juste vous communiquer les coordonnées. Alors, soit on peut s'inscrire par courriel à info@mbamtl.org ou par téléphone au 514-285-2000, option 3. Bonne vision, bonne visibilité, régalez-vous, touchez.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors, je vais vous parler maintenant d'un article qui est extrait des dossiers de la recherche. Fukushima, débordé par l'eau contaminée, dans la revue du novembre-décembre 2014, et écrit par Raphaël Briot à Kyoto. Bon, on se souvient tous de ce terrible accident à la centrale de Fukushima qui s'est produite au mois de mars 2011. Et qui était consécutive à un séisme de magnitude 9 qui avait provoqué un tsunami et une vague de 15 mètres. Alors, ce que je veux juste préciser qui est écrit dans l'article, c'est que la sécurité concernant des vagues éventuelles avait été prévue pour des vagues d'un maximum de 6,50 m. Or là, on s'est trouvé face à une vague de 15 mètres et c'est ce qui a provoqué la catastrophe. C'est considérable, ça n'avait pas été envisagé. Alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes, évidemment, mais entre autres celui de l'eau contaminée, parce que chaque jour, 350 mètres cubes d'eau douce traversent les enceintes des réacteurs qui ne sont plus étanches, qui emportent des matériaux radioactifs, auxquels s'ajoutent 400 mètres de cubes d'eau autre, qui est saine, et qui provient des collines environnantes. J'ai essayé de voir un petit peu quelle était la situation géographique de Fukushima, là, de la centrale. Et probablement, il y a des collines tout autour, ce qui fait que toutes les eaux de ruissellement passent sous la centrale. Alors, le problème, évidemment, c'est endiguer la fuite des eaux contaminées dans l'environnement et empêcher leur écoulement vers le Pacifique. Alors, ce qui est prévu donc pour se faire depuis début juin, le Japon s'est lancé dans un chantier complètement démesuré à la hauteur de la catastrophe et du site lui-même. Ce qu'il faut faire et ce qui est prévu de faire, c'est d'entourer les 4 réacteurs nucléaires qui sont endommagés d'un véritable mur de glace tout autour des réacteurs. Raphaël Briot écrit qu'après des mois d'études, l'autorité de sûreté nucléaire japonaise a finalement validé le projet.
Parce que l'idée, c'est de refroidir...
Alors, l'idée, c'est d'entourer, de créer une enceinte qui fait 500 mètres de long sur 200 mètres de large. Donc, ça fait à peu près 1,5 km, qui est sur 30 mètres de profondeur. Et ça, ça va être un mur de glace. Alors là, ça, c'est intéressant parce que... donc, il faut construire ce mur de glace. Et pour construire ce mur de glace... ils vont faire cette structure, ils vont donc bâtir cette structure, et tout au long de la structure, il va y avoir, il y a 1500 tuyaux en acier qui vont être installés, et dans ces tuyaux passera un liquide de refroidissement de moins 30 degrés. Et au passage du liquide, le sol, il est imbibé d'eau en permanence, hein, donc le sol, il va se mettre à geler jusqu'à former petit à petit une barrière imperméable. Il y a un autre aspect aussi qu'il faut prévoir, c'est la construction d'une digue sous-marine qui serait destinée à isoler le bord de la mer le long de la centrale pour empêcher l'écoulement des eaux souillées dans le Pacifique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, il faut pomper, stocker les eaux contaminées pour pouvoir ensuite les rejeter à la mer une fois qu'elles auront été traitées. Et on parle de fin juillet 2014, il y avait environ seulement 511 mètres cubes d'eau contaminée qui étaient stockés dans plus de 1000 réservoirs disséminés, je ne dis pas seulement, mais c'est beaucoup, sur le site. Et on continue de construire des dizaines et des dizaines de citernes à la hâte pour conserver ces eaux contaminées qu'il va falloir traiter. Alors, la question est loin d'être résolue. Donc, l'objectif avec ce mur de glace, c'est de congeler à partir de mars 2015, en espérant qu'il n'y aura pas de retard, et pour une durée de 6 ans au moins, 70 000 mètres cubes de sol imbibé d'eau radioactive. C'est une réalisation absolument sans précédent. Ça n'a jamais été fait. C'est gigantesque comme action.
Et j'imagine que le coût doit être aussi gigantesque.
Le coût est complètement gigantesque aussi. Parce que l'entreprise qui est responsable de ces travaux s'appelle TEPCO. Et elle prévoit donc de maintenir le mur de glace jusqu'en 2020. Considère que le problème sera résolu en 2020 parce qu'il faut donner le temps de redonner aux réacteurs endommagés leur étanchéité. Et donc, le coût de l'opération, 350 millions de dollars, plus les frais de fonctionnement d'environ 10 millions de dollars par an.
Oh là là!
Oui, c'est quelque chose, hein. C'est absolument gigantesque, mais ces travaux-là, c'est quelque chose de jamais vu, aussi bien dans l'accident que dans les conséquences.
Mais les gens qui travaillent là dans des conditions dangereuses, j'imagine aussi.
Des conditions absolument terribles et qui sont dangereuses. Il faut savoir que la dose maximale de radiation est très rapidement atteinte et les travailleurs ne peuvent pas rester plus que 3 heures sur le chantier. En plus, ils sont évidemment habillés de tenues extrêmement lourdes et le climat n'aide pas. Alors, l'été, les températures sont de plus 40, l'humidité, ça facilite pas les choses. Et au total, ce sont 300 ouvriers qui sont mobilisés quotidiennement. La technique a été déjà utilisée dans d'autres pays, notamment pour construire une partie du métro parisien, mais jamais dans des dimensions aussi extraordinaires que ça.
Et des conditions semblables.
Les experts sont quand même dubitatifs quant à la réussite de ce mur. C'était un article de Raphaël Briot à Kyoto. Thank you.
Alors, Jean-Sébastien Trudel, dans Géo plein air, janvier-février 2015, nous pose la question. Êtes-vous prêt à vivre longtemps?
Oui. Attendez, longtemps, là, on n'a pas tout à fait la même notion si on parle d'il y a quelques années.
C'est assez relatif.
Et maintenant, c'est assez relatif. Ça change.
De plus en plus d'experts croient que le premier être humain qui vivra 1000 ans est déjà né. Allez, entendre, on peut même penser que quelques lecteurs de ce magazine, peut-être nous, seront vraisemblablement des millénaires. Normal, diront certains, car le plein air, ça permet de rester jeune et actif. Ben oui. Mais pour ma part, je suis convaincu de trois choses. La première, c'est que s'il est difficile de croire que des humains atteindront un jour 1000 ans, il faut sérieusement, et là j'y crois, envisager la possibilité qu'un bon nombre d'entre nous vivront jusqu'à 125 ou 150 ans.
Ça dépend dans quel état.
Hein?
Ah oui. Donc, la première, je parlais de trois choses, la première. La deuxième, c'est que nous ne sommes pas psychologiquement prêts à vivre aussi vieux. Même si le plein air peut s'avérer une solution intéressante pour nous aider à faire face à cette nouvelle longévité. Et la troisième, je vais parler de trois choses. J'ai de la suite dans les idées quand même. Hein? La troisième chose, c'est que nous devons réinventer notre société de consommation qui mise sur le produire, polluer, consommer, jeter. Hein? Ouais. Tout est jetable aujourd'hui, bien sûr. Car au rythme où vont les choses, aucun être humain, voire aucune vie, ne subsistera au-delà de quelques siècles. Du train où on va actuellement avec la pollution. Alors, revenons à la question de la longévité. Un regard sur les projets déjà réalisés permet de constater que l'espérance de vie a changé considérablement. Au milieu du 18e siècle, avez-vous une idée de ce que c'était la longévité? Pour moi, ça a été une révélation. 25 ans. 25 ans au 18e siècle. Et maintenant, c'est autour de 80-82 ans. Et autrement dit, notre espérance de vie a plus que triplé en 250 ans. Est-ce que ça sera vrai pour les 250 prochaines années? Ben là est toute la question. Ce gain-là s'est fait en suivant un rythme plutôt constant, variant de 3 ou 4 ans par décennie. Or, dans les prochaines années, nous pourrions connaître une technologie qui fera augmenter la courbe de façon importante. En combinant notre compréhension de l'ADN, nos connaissances des cellules souches et notre capacité à faire des manipulations génétiques et nos découvertes en matière de nanotechnologie, le scénario d'une explosion de l'espérance de vie devient très convaincant comme scénario. Ajoutez à cela la révolution des communications avec l'essor du web, l'évolution continue de la puissance des ordinateurs, et vous avez un cocktail de technologies qui pourront réparer nos organes, régénérer nos cellules et même modifier notre ADN. On y est presque, hein, pour éviter des maladies génétiques et améliorer nos performances. Alors, c'est des données qui enthousiasment des chercheurs. Les experts évaluent que ces nouvelles technologies arriveront par vagues dans des hôpitaux au cours des 5 prochaines années. Le bond technologique se produira entre 2025 et 2045. On va être encore là, hein?
Bien sûr, évidemment.
On l'espère. À chaque décennie, les percées technologiques permettront de gagner quelques années supplémentaires. En 2050, la médecine ne ressemblera aucunement à celle d'aujourd'hui. C'est peut-être à espérer, hein, dans le fond. Peut-être qu'il y aura moins d'attente d'espérer. Peut-être.
Pour ça, oui.
Ce scénario qui semble sorti des films de science-fiction soulève son lot de questions morales aussi. Et éthique. Oui. Si vous avez 50 ans, vous dites probablement que vous avez déjà vécu les deux tiers de votre vie. En pensant que vous allez jusqu'à 75 ans, on peut dépasser ça quand même. Mais les deux tiers de votre vie. Supposons maintenant que vous vivez jusqu'à 150 ans. À 50 ans, vous n'auriez alors vécu que le tiers de votre vie. C'est très différent. Hein? C'est comme si vous n'aviez que 25 ans, dans le fond. Est-ce que cette nouvelle perspective changerait votre façon d'aborder les prochaines années? Je pense que oui. C'est ce qui me fait dire que même si nous arrivons à réparer notre corps, nous ne sommes pas prêts psychologiquement à vivre aussi vieux. Et ça, je le pense. Peut-être la solution passera-t-elle par le plein air N'oubliez pas que c'est tiré de Géoplanaire, hein?
Des
chercheurs de l'Université de l'Essex en Angleterre suggèrent que l'activité physique réalisée dans la nature, ce qu'ils appellent le « green exercise », serait plus bénéfique pour la santé physique et mentale. Est-ce réaliste? Un autre scénario se dessine.
Oui.
Lequel contredit la théorie de la vie millénaire? Je crois davantage à ce scénario qui m'apparaît un peu plus réaliste, celui de la catastrophe environnementale.
Voilà.
Déjà, on ne compte plus le nombre d'études qui confirment ces effets néfastes sur la biodiversité. Hein? Pollution, dérèglement climatique, contamination des sols, surexploitation des sources d'eau douce, des forêts, des stocks de poissons. La survie de l'humanité est menacée de toutes parts. Hein?
Ouais.
Alors, peut-être que vivre très longtemps nous permettra de réaliser nos erreurs à temps. Chose certaine, si je dois vivre 1000 ans, je souhaite simplement encore avoir la chance de respirer l'air pur du matin en camping, de marcher dans une forêt millénaire, d'évaler des pentes couvertes de vraie neige et de pouvoir encore une fois contourner le Cap Horn.
Oh, c'est ce qu'on vous souhaite.
Ce que je viens de faire. Malheureusement, peut-être que ceci relève de la science-fiction. Jean-Sébastien Trudel, Jean-Sébastien Trudel nous posait la question dans Géoplanaire janvier-février 2015.
Je veux toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je la veux toute, pas juste des petits bouts. Je veux toute la vivre ma vie. Je veux toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je la veux toute, pas juste des petits bouts.
je crois qu'Angèle Arsenault aurait sûrement été prête à vivre très longtemps, Michel, avec sa chanson « Je veux toute la vivre ma vie ».
150 ans, peut-être.
Et peut-être qu'elle aurait aimé faire un tour à Sun Peaks, en Colombie-Britannique, parce que certains préfèrent aller justement à Margarita ou s'intéresser à des sujets plus scientifiques, mais d'autres personnes aiment la neige. C'est un débat encore au Québec. Hein. Il y a ceux qui aiment la neige, ceux qui n'aiment pas la neige. Mais pour ceux qui aiment la neige, on peut aller tout près, en fait, rester au Canada, en Colombie-Britannique.
On n'est pas obligé d'aller au Cap Horn. Il y a d'autres endroits.
Eh oui. Et puis, c'est un texte de Catherine Schlager dans la presse. Elle était là à Sun Peaks pour faire du ski à dimension humaine à la mi-décembre. Et alors, c'était en début d'hiver à Kelowna, en Colombie-Britannique. Il n'y avait aucune trace blanche en vue. Mais après un trajet d'autocar rythmé par les passages de bœufs et la pluie qui tambourinait contre les fenêtres, elle est arrivée à Sun Peaks où il pleuvait, mais les montagnes a réservé à son équipe et à Catherine de bien belles surprises. Sun Peaks est le deuxième domaine skiable au Canada en superficie et bénéficie d'un microclimat particulier parce que ses trois sommets, alors il y a Todd, Morrissey et Sundance, reçoivent annuellement plus de 6 mètres de poudreuse tout en profitant de quelques 2000 heures d'ensoleillement. Alors, ski au pied, ils sont prêts à explorer les cimes enneigées, recouvertes pendant la nuit d'une quinzaine de centimètres de poudreuse. Il n'y avait aucune attente pour monter à bord du Sunburst Express, qui est le télésiège quadruple qui se rend à mi-montagne. On peut emprunter Crystal Lane afin d'accéder au télésiège Crystal. Et pendant la montée jusqu'au sommet du Mont Todd, on peut admirer le ciel parfaitement bleu, les montagnes à perte de vue, la neige qui reflète les lueurs du soleil et les arbres croulant sous la neige. Nulle trace de la pluie d'hier. La neige s'est faite abondante, la température est clémente, bref, c'est le bonheur. Et quand, en fait, Catherine a rencontré Vincent Lafontaine d'origine québécoise, c'est le directeur de sport de la station, et il dit « Il y a quelque chose ici, une ambiance bien particulière. Sun Peaks a tout à offrir et quand je suis arrivée ici, je suis tombée en amour avec cette montagne. » Puis, on les a dirigés vers la piste Five Mile qui serpente sur le Mont Todd sur 8 km. Très étroite par moment, avec quantité d'arbres enneigés, c'est une des plus populaires. Ils ont fait halte au télésiège Elevation puisque les deux guides ont voulu leur faire essayer la piste Caribou qui procure son lot de sueur froide. À Sun Peaks, les guides au manteau orange sont omniprésents et dévoués. Ils connaissent les moindres recoins de la station et on peut skier avec eux quotidiennement. Et si vous préférez la compagnie de l'ex-championne canadienne Nancy Greenrain, eh bien, elle délaisse chaque week-end son poste de sénatrice pour renouer avec la montagne dont elle est l'ambassadrice. Elle offre conseils et anecdotes les samedis et dimanches. Les jeudis et vendredis, les skieurs affamés peuvent se réunir à 17 h pour une descente magique en soirée parce que le but, c'est de monter à bord du Sunburst Express dans le noir pour le fondu dinner au chalet de mi-montagne où l'on peut déguster fondu bourguignonne, fondu au fromage ou au chocolat au son d'un chansonnier. Alors, les convives trinquent, racontent leurs exploits et dansent parfois, mais sans abus, puisqu'il faut redescendre à la lueur d'une simple lampe frontale. Alors, l'expérience, effrayante de prime abord, s'avère magique parce que la montagne est si paisible et si faiblement éclairée que l'on voit parfaitement les étoiles qui constellent le ciel.
Hey, on parle beaucoup de bouffe aujourd'hui. Hein?
Oui, c'est ce que
on a de la bouffe dans nos sujets.
Margarita.
D'alcool, de vin, de bon vin. Moi, je suis très content de ça.
Et puis, justement, parlant de nourriture, le lendemain matin, Catherine Schlager est allée déjeuner au First Tracks Breakfast. Donc, trois fois par semaine, des privilégiés s'amusent à dévaler les pentes avant l'ouverture de la station. Et la neige, parfaitement damée, procure des sensations de glisse exceptionnelles. Puis, justement, à 9 h, on range les skis pour le petit déjeuner au chalet. Et puis, les guides leur ont fait découvrir Rambler puis East Village Way, qui contourne la montagne pour mener au Mont Morrissey. Mais Catherine et son équipe leur ont faussé compagnie pour voir la zone familiale où il y a des groupes d'enfants qui suivent des leçons. Et puis, Il y a une dame, Marie-Claude Park, qui est originaire de Trois-Rivières et qui habite maintenant Toronto, qui vient régulièrement à la station. Et elle dit « Mes enfants sont en camp de ski toute la semaine et c'est un endroit fantastique pour les familles parce que les pistes sont belles et il n'y a pas trop de monde. » Sun Peak sait accueillir les enfants. Il y a quantité d'activités qui leur sont destinées. Et puis, les grands ne sont pas oubliés. Jusqu'au 25 janvier, le 17e Sun Peaks Winter Okanagan Wine Festival bat son plein. Et l'été, il y a aussi quelques concerts musicaux d'envergure qui sont organisés. On peut se rendre, pour ceux qui désirent se rendre à Sun Peaks, eh bien, de Montréal, il faut se rendre à Vancouver ou à Calgary, puis prendre un vol vers Kelowna, donc c'est 2h30 de navette. Et puis de Vancouver, un trajet en voiture qui prend environ 4h15.
Bon, est-ce que vous avez des voitures qui ne sont pas électriques?
Non, pas encore.
Je ne suis pas encore électrique.
Quand je vais avoir 1000 ans, peut-être.
Ah, d'accord. Bah, écoutez, là, c'est un kit qui existerait maintenant et qui permettrait de rendre notre voiture électrique juste un petit kit de rien du tout.
Ah oui?
Qui va convertir un véhicule à moteur classique en un véhicule hybride. Le système permet de réduire les consommations et les émissions avec un coût très faible par rapport à l'achat d'un véhicule hybride. C'est transformé ainsi, il est capable de réduire de 20% la consommation et les émissions dans un usage urbain standard, sans sacrifier les performances, messieurs aiment ça, en améliorant même la capacité d'accélération et en maintenant l'autonomie du véhicule traditionnel. Bon, c'est une idée qui est brevetée au niveau européen et le kit peut être appliqué à tous les véhicules à traction avant, fonctionnant avec tout type de carburant. Le véhicule peut récupérer de l'énergie lors de la décélération et pendant le freinage pour recharger la batterie gratuitement et pendant les phases de stationnement du véhicule du fait de panneaux solaires. Le kit a été installé actuellement et testé à l'Université de Salerne et les tests préliminaires sur route ont confirmé la faisabilité de la proposition et la possibilité de développer en laboratoire un système de contrôle compatible avec le mode de conduite d'un véhicule à moteur en mode électrique et hybride.
Bien, c'est super, ça.
C'est super, hein?
Oui. Ça peut nous amener à Kelowna, justement, quand on fait le Canada, Vancouver, jusqu'à Kelowna pour aller à Sun Peaks.
Absolument. Moi, je râle, par exemple, parce que je viens d'acheter un véhicule hybride. Et puis, je me dis peut-être que juste avec un kit, j'aurais pu transformer mon autre voiture en voiture hybride.
Ouais.
Dans le domaine de la voiture, j'ai deux choses à vous mentionner. Le domaine de la voiture, oui. Il y a Hyundai qui a présenté un prototype d'une camionnette au salon de... au salon de Détroit. Il y a le salon de l'auto ici à Montréal. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est un véhicule avec une benne, donc dans laquelle on peut mettre des choses, et cette benne-là est rétractable, extensible. On peut l'agrandir ou la tirer comme un tiroir. Donc, vous déstationnez, whoops, le tiroir.
C'est pratique.
Une auto à tiroir. Et l'autre chose qui a été présentée aussi, je crois que c'est la première, c'est une véritable voiture, la Shelby Cobra de 1965, qui a été entièrement faite par imprimante 3D. On a parlé d'imprimante 3D il y a un certain temps. Vous savez, les différentes couches. Ça a été fait par imprimante 3B. Et ça a pris 6 semaines pour la faire. Et l'installation des pièces mécaniques, électriques, tout ça, ça a pris seulement 24 heures.
Wow.
Alors, c'est quand même incroyable. On est rendu là.
Oui.
Incroyable. Et justement, parlant de voitures, eh bien, il y a des camions qui ressortent pour la fête des neiges à Montréal, qui a lieu qui a commencé samedi dernier jusqu'au 8 février prochain au parc Jean-Drapeau. Alors, ceux qui ne craignent pas les endroits clos auront du plaisir à entrer le haut de leur corps dans une bulle géante qui s'appelle Bing Bang Bulle. C'est complètement fou, tu ris à mort là-dedans. C'est ce qu'a dit Martine Venn à la journaliste Marie-Ève Moraz de La Presse, qui, en sa qualité d'employé du parc, a dû l'essayer avant tout le monde. Et puis tous les visiteurs de la Fête des Neiges pourront s'adonner à une partie de soccer, bulle ou de lutte amicale, à condition de laisser tomber son amour-propre juste avant d'entrer dans la bulle.
D'accord.
Ah, je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Jean-Sébastien me fait signe que oui, donc c'est merveilleux. Alors, on tient à remercier nos éditeurs de leur présence. Merci aussi, bien sûr, à André-Étienne et Geneviève Patterson.
Au plaisir, merci Michel.
Bien. Et remerciements, bien sûr, à notre joyeux Jean-Sébastien Laliberté qui nous soutient avec son sourire, sa mise en onde, ses choix musicaux. Vous pouvez nous écrire, hein? Ça nous fait toujours plaisir sur notre site canalm.org. Et vous pouvez nous écouter à nouveau à 13h et à 21h. Alors, on vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée.
Bonne journée, tout le monde.
Bonne semaine.
À la prochaine.